affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Ce matin, alors que je prenais le TGV pour me rendre à Paris, j'observais le paysage défiler par la fenêtre, alors que le soleil se levait sur la campagne. Il y avait là des forêts et des futaies, d'abord essentiellement constituées de conifères, puis davantage de feuillus, et bientôt les doux pâturages de Bourgogne, dans lesquels paissaient déjà quelques vaches puissantes et paisibles. Il y avait aussi des fleuves, le Rhône, où était-ce la Saône, et bientôt la Seine. Je me demandais quelle sorte de vie les habitait encore. Y avait-il encore des brochets ? À l'approche de la capitale, j'ai aussi observé des axes autoroutiers encombrés avec des files de véhicules s'étirant presque à l'infini. Enfin, le train est arrivé à son terminus et nous nous sommes tous levés, participant à un étrange balai avant d'être avalés par la bouche du métro, telles des particules de la vaste société humaine. À cet instant encore, je me disais que tout cela était beau et fascinant. Et si de telles pensées me sont venues, c'est parce que je venais de lire le livre que le biologiste Éric Kersanti, membre de l'Académie des sciences, vient de consacrer aux sources de la vie. Un livre consacré à la façon dont les cellules se divisent et se multiplient, un livre sérieux, donc un livre scientifique, mais un livre qui peut aussi se comprendre comme une ode à la vie, à la beauté et à la complexité du vivant. C'est bien à cette beauté que nous allons consacrer notre émission, en compagnie d'Éric Kersanti qui a accepté d'évoquer avec nous ses recherches, mais aussi sa carrière. Les deux sont liés. Ce livre sur les origines de la vie est aussi, peut aussi se comprendre comme une autobiographie d'un scientifique, et nous y reviendrons. Monsieur, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Je vais donner quelques précisions à nos auditeurs pour qu'ils comprennent bien à qui ils ont affaire aujourd'hui, que vous avez été chercheur successivement à l'Institut Pasteur, à l'Université de San Francisco, au Laboratoire européen de biologie moléculaire d'Heidelberg, que vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur scientifique de l'expédition Tara Océan, que la plupart des gens connaissent un peu mieux, qui était consacrée à la recherche sur le plancton, que vous avez, entre autres distinctions, reçu la médaille d'or du CNRS en 2015, si bien qu'en égrenant cet état de service, je me demande si mon introduction ne tapait pas à côté de du sujet, et je me demande si cela ne vous choque pas de voir que votre livre provoque de telles rêveries chez l'un de vos lecteurs.
Bah, pas du tout, au contraire, j'en suis ravi. Non, je pense que la science, justement, pour la plupart des scientifiques, je pense, ça part de rêverie, ça part de questions. Hein, c'est un peu, c'est de la philosophie aussi. C'est-à-dire qu'on fait de la recherche parce qu'on veut essayer de comprendre le monde. Donc la base de la recherche scientifique, c'est des questions philosophiques. Hein. Donc c'est un peu de la rêverie et puis c'est aussi de la poésie, bien sûr.
Et vous, ça vous a saisi à quel moment ?
Moi, ça m'a saisi très jeune. Ça m'a saisi vers 15 ans, je crois. Je me posais des questions un petit peu sur, justement, l'origine des formes. C'est-à-dire, comment est-ce que des formes aussi complexes que celles qu'on voit dans les organismes vivants avaient pu émerger dans l'univers ? Donc, enfin, à cet âge-là, on se posait des questions qu'on se pose de façon très vague. Hein, c'est pas... Et puis, j'aimais bien, à l'école, au lycée, j'aimais bien les cours de... À l'époque, ça s'appelait sciences naturelles, de physique et de chimie. Donc, voilà, j'ai décidé de faire de la recherche pour essayer de comprendre un petit peu d'où je venais.
Alors ensuite, la recherche, c'est vaste. Comment se décide-t-on ? Est-ce que ce sont les hasards de la vie ou des choix déterminés de se diriger vers la biologie ? Vous avez commencé à l'Institut Pasteur, là c'était de l'immunologie, mais finalement ça n'a pas été...
C'était de l'immunologie cellulaire un peu, c'est-à-dire que c'était déjà de la biologie. Oui, en fait, j'étais intéressé par ces questions de biologie fondamentale, j'ai lu pas mal de livres quand j'étais jeune, j'ai lu en particulier les livres de Jean Rostand. C'est amusant parce que Jean Rostand, il travaillait sur les crapauds déjà, et puis j'ai beaucoup travaillé sur les œufs de crapauds après. Mais en ayant oublié que j'avais lu les livres de Jean Rostand. Donc c'est venu comme ça, un petit peu. J'ai essayé de faire de la biologie. Et évidemment, à l'époque, je ne sais pas comment c'est maintenant à la fac, mais en tout cas à l'époque, quand on faisait, pour faire des études de biologie, il y avait les deux premières années, on faisait un petit peu toutes les sciences. On faisait de la physique, de la chimie, des sciences, de la géologie, de la botanique, tout ça. On avait une formation très très large. Et puis après, j'ai décidé, je me suis aperçu que finalement, ce qui était intéressant à cette époque-là, c'était de faire de la génétique et de la biologie moléculaire et de la biophysique. Donc, j'ai fait des certificats dans ces domaines-là. Et c'est comme ça que je suis parti sur la biologie fondamentale, sur la biologie cellulaire.
Oui, parce que lorsqu'on décide de faire de la recherche, évidemment, on est déjà tributaire de ce qui a déjà été trouvé et de ce qui reste à trouver.
Ouais, exactement. Et à cette époque-là, c'était fascinant parce que c'était quand même c'était les années, c'était l'après 70, oui. Et il n'y avait pas très longtemps que le code génétique avait été découvert, la structure de l'ADN et tout ça. Donc les cours qu'on avait étaient fascinants, c'était vraiment extraordinaire. Et puis aussi le début de la compréhension du fonctionnement de la biochimie et de la cellule. Donc c'était fascinant. Hein. C'est facile en fait de se passionner pour ça, je pense.
C'était un moment de bascule.
Ouais, c'était un moment de bascule. Ouais. Puis on avait des profs qui avaient côtoyé les grands scientifiques de l'époque, Jacob, Monod, Lvov, tout ça. Donc c'était super. Ouais.
On a parlé des interrogations métaphysiques qui peuvent saisir un enfant de 15 ans pendant son cours de sciences naturelles. Mm-hmm. Dans votre ouvrage, vous retracez quand même la longue fresque des recherches scientifiques et des questions. Vous remontez jusqu'à l'Antiquité, mm-hmm, sur ces questions de comment le vivant s'assemble et des formes complexes, ouais, se créent. Est-ce que vous pouvez nous en faire un bref résumé des grandes étapes de cette recherche et de quelques figures marquantes?
Oui, en fait, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de montrer. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui montrent la progression de la connaissance en biologie. Donc là, j'ai essayé de le faire en partant du simple, hein, de ce qui est le plus simple, c'est-à-dire les questions que se posaient les gens déjà à l'époque de l'Antiquité sur comment un être humain peut se construire. Donc, et la grande question, c'est de savoir quel était l'apport de l'homme et de la femme dans la formation de l'embryon. Donc, il y a eu des grandes questions sur le rôle du sperme et de l'œuf, en fait, parce qu'on a commencé à comprendre un petit peu ce qui se passait au niveau de la fécondation.
Et parce que certains pensaient qu'il y avait un petit être
préformé. Ouais, certains pensaient qu'il y avait un petit être formé. Alors au début, certains ont pensé qu'il y avait un petit être formé dans l'œuf. Puis après, c'était dans le spermatozoïde, donc c'est passé de l'un à l'autre. Puis finalement, les gens se sont posés la question, mais comment c'est possible? Parce que de toute façon, un être qui naît n'est pas le même que son père ou sa mère, mais il est différent, c'est un mélange. Donc on a commencé à se dire, mais bon, peut-être qu'il y a des choses qui se mélangent, qui viennent des deux cellules. Et puis après, il a fallu découvrir qu'en fait, l'information venait du noyau qu'il y a dans chaque cellule. Chaque cellule est composée d'un noyau et du reste, hein, du fonctionnement de la cellule. Donc on a commencé à se poser des questions là-dessus, sur le rôle du noyau. Et c'est de là qu'est partie ensuite la génétique, donc la découverte des composants, de l'information qui est présente dans le noyau, pour arriver finalement à l'ADN et puis au code génétique, à la structure de cette molécule extraordinaire qu'est l'ADN. Donc ça, c'est pour le début. Hein, donc il y a eu tout un... Mais ça a été long, hein, parce qu'il a fallu passer... C'est comme je dis, un petit peu, en général, la science, ça passe par des... les scientifiques prennent des chemins, on se trompe, et puis on repart...
Il y a un vagabondage.
Il y a vraiment un vagabondage, je pense, oui. C'est l'intuition. Hein. Il y a beaucoup d'intuition. On se dit, tiens, ça doit marcher comme ça. Puis on s'aperçoit que c'est faux. On repart dans une autre direction. Voilà. Donc,
quand je vois vos mains qui vont de gauche et de droite.
Voilà,
et
c'est
donc,
ça.
Je me rappelle que vous êtes un marin. Que vous utilisez comme métaphore celle du marin qui tire des bords de gauche, de,
oui, exactement,
droite, mais qui,
ouais,
finit par arriver à destination.
Ouais. Souvent avec une grande... Plus maintenant avec les satellites, mais à l'époque, quand on avait la marine ancienne, on naviguait...
À l'estime.
Donc,
c'est un très joli mot, d'ailleurs.
Ouais, c'est un très beau mot. Ouais. Et donc, effectivement, l'estime dit bien ce qu'il veut dire, ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on pense qu'on est à peu près là. On sait toujours à peu près où on est. Et puis... Après, il faut se repérer. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est un petit peu comme la science. Hein. C'est-à-dire que quand on arrive quelque part, eh ben, pour être sûr de l'endroit où on est, comme il y a une grosse incertitude, on repère des montagnes, des clochers, des différents types de choses qui vous permettent de dire « Ah ben finalement, on est à cet endroit-là ».
Oui, parce que pour la navigation, maintenant, il y a le GPS qui vous permet de dire précisément où l'on est en temps réel.
En permanence, oui.
Mais dans la recherche scientifique, ce n'est pas le cas. On continue à naviguer à l'estime.
À l'estime, exactement, ouais.
Alors, au moment où donc vous commencez vos recherches, précisément, où en est-on de cette réflexion
ben, sur quand je commence,
la création du vivant.
Ouais, quand je commence à faire de la recherche, on connaît bien, évidemment, on connaît très bien les cellules, on connaît très bien l'existence des les molécules. On commence à bien connaître les molécules du vivant, on connaît l'ADN. Et tout le XXe siècle, en fait, une grosse partie du XXe siècle, donc pendant laquelle j'ai fait de la recherche, consistait à c'était très mécanistique, c'était en biologie cellulaire et moléculaire, c'est-à-dire que on essayait de déterminer quelle était la fonction des gènes et des molécules produites par les gènes. Donc la génétique, c'est une science de la causalité, c'est-à-dire qu'on élimine un gène et puis on regarde ce qui se passe, l'effet de l'élimination de ce gène sur le fonctionnement d'une cellule ou d'un organisme. Donc il y a eu énormément de travail qui a été fait là-dessus, moi j'ai participé à ça, hein, comme tout le monde. La biochimie, c'est pareil, on essayait d'identifier des molécules qui participent au fonctionnement des cellules. Et le problème, finalement, c'est que je pense qu'il y a eu une grosse transition à un moment donné, c'est-à-dire qu'il a fallu passer de cette causalité linéaire entre la fonction d'un gène et le fonctionnement d'une cellule, à la compréhension de comportements plus complexes, c'est-à-dire comment des systèmes complexes émergent à partir du fonctionnement de tous les gènes, ou d'un grand nombre de gènes. Et là, c'est là que ça commence à devenir intéressant, parce qu'on commence à vraiment se poser la question de l'émergence des fonctions biologiques. Vous voyez ce que je veux dire ?
Pour l'instant, si je résume, la vision de l'ADN, c'était quelque chose comme un programme extrêmement rigide.
Voilà.
Comme, je ne sais pas, ces bandes à trous qui servent à la fois d'ordinateur ou au piano mécanique. Tout ça est codé, et comme c'est codé d'une telle manière, on aboutit forcément à tel résultat.
Tel résultat, oui. C'était la vision. C'est quand même le cas, c'est toujours le cas. Mais problème,
ça ne suffit pas,
c'est-à-dire que comment on arrive à la fonction finale. C'est-à-dire que même si elle est toujours déterminée, il y a beaucoup de choses qui se passent entre les deux. Et donc, comment ça se produit ? C'est-à-dire, comment ces interactions entre les gènes et entre les molécules conduisent à une fonction ? Par exemple, une cellule est capable de se diviser. Comment est-ce que l'information qu'il y a dans les cellules, qui vient des gènes, évidemment, permet à la cellule de savoir quand elle doit se diviser ?
La question de l'horloge.
L'horloge, voilà. Donc, on ne savait pas du tout ça. Et c'était extraordinaire parce que quand j'ai commencé à travailler sur ces questions-là en 1981-2 dans le laboratoire de Marc Kirchner à San Francisco, c'était fabuleux parce qu'on voyait, il avait fait un petit film de crapauds qui oscillaient comme ça. On voyait cette oscillation extrêmement régulière de 30 minutes. Et c'était magique parce qu'il y avait un mystère. Quelle est l'horloge ? On savait qu'il y avait une horloge. Mais on ne voyait pas du tout comment elle pouvait fonctionner. Et en 10 ans, on a compris, au niveau moléculaire, comment cette horloge fonctionne. Et cette compréhension vient d'un grand nombre d'interactions entre des molécules qui finissent par générer une horloge.
Parce que si j'ai bien compris, on a cru à un moment que l'horloge était contenue dans l'ADN lui-même et qu'un certain nombre d'expériences ont permis de démontrer. Pas du tout.
En fait, si, les composants de l'horloge sont dans l'ADN, mais l'horloge n'est pas dans l'ADN. C'est-à-dire que l'horloge émerge de l'interaction des composants qui sont produits par l'ADN. C'est comme si une usine... en général, une usine fabrique une machine, mais tout est programmé avant. Là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que les choses sont présentes, les parties sont présentes dans l'ADN, mais c'est les interactions entre ces parties qui font que l'horloge émerge.
Donc il y a une part de contingence.
Et une part de contingence, exactement. Oui.
Qui contribue à la diversité, certainement.
Qui contribue aussi à la diversité, oui. Alors là, c'est autre chose. C'est on repart à une autre échelle, ouais. Qui est la contingence, oui, dans l'évolution.
Le livre poursuit deux échelles de temps.
Voilà.
Mais même si on a parfois un peu l'impression que ce qui se passe en petit et en rapide est comme une condensation de ce qui se passerait en grand, mm-hmm. à l'échelle de
la Terre.
Dire de l'humanité, non, de la Terre.
Géologique. L'échelle de temps géologique.
C'est-à-dire que le temps très long, l'apparition de la vie. Et ensuite, en parallèle, vous poursuivez l'apparition de la vie à l'échelle humaine ou d'un animal.
Ou même des molécules, oui.
Alors, comment procède-t-on pour expliquer tout ça ? On commence par quel phénomène ?
Ce que j'ai fait dans le livre, c'est justement ce qu'il y a cette espèce de...
D'aller-retour
permanent entre les deux échelles de temps, parce que je pense que c'est tout le problème de la vie. Les physiciens ont toujours eu des problèmes avec la biologie, parce qu'ils ont peur de la biologie, parce que c'est trop compliqué. Effectivement, c'est très compliqué. Ça vient du fait qu'il y a beaucoup d'informations dans la biologie. C'est-à-dire que l'ADN, ça contient de l'information. Et cette information, elle s'est accumulée dans cet ADN au cours des milliards d'années ou des millions d'années de l'évolution. Donc la contingence, alors là, elle se retrouve au niveau de l'évolution. C'est-à-dire qu'il a fallu, pour que les cellules existent, il faut qu'elles puissent fonctionner dans l'environnement où elles sont. Donc la contingence, c'est le fait que, déjà, au niveau de l'évolution, qui est que si vous voulez, l'information qu'il y a dans une cellule, qui apparaît un peu par hasard dans une cellule à un moment donné, lui permette de fonctionner. Donc c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Donc il y a uniquement les cellules qui fonctionnent, qui survivent. Donc la contingence, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une cellule qui a une certaine information, il y a un environnement donné, et cette cellule doit fonctionner dans cet environnement. Et donc, par exemple, si on reprend l'exemple du cycle cellulaire, il a fallu que l'information qui est nécessaire à fabriquer cette horloge se mette ensemble à un moment donné dans les gènes pour permettre l'émergence de l'horloge au sein d'une cellule. Donc, et ça a été sélectionné, c'est resté dans la suite de l'évolution.
Puisqu'on a commencé par tes considérations où le mot de métaphysique était prononcé, est-ce qu'on peut parler du début ?
Oui.
Il y a un moment où la vie apparaît. Mm-hmm. Ce qui nous mène à réfléchir d'ailleurs à la distinction entre l'inerte et le vivant. Alors, votre hypothèse sur cet événement majeur, c'est le moins qu'on puisse dire, qui donc se produit à... Combien de milliards d'années ?
4 milliards d'années à peu près, ouais.
4 milliards d'années. Mmh. Alors, comme disent les journalistes, qui, quoi, quand, où, comment ?
Ben, la première chose, c'est que tout le monde se pose beaucoup de questions là-dessus. On n'a pas d'informations réelles de données, hein, sur l'origine de la vie. Et la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est... Moi, ce qui m'a frappé, c'est que la vie est apparue très peu de temps après la formation de la Terre. Donc, la Terre, c'est à peu près 4,5 milliards d'années. La vie est apparue entre 3,8 et 4,2 milliards d'années. Donc, c'est très, en fait, à l'échelle géologique, c'est très peu de temps après la formation de la Terre. Ce qui veut dire, quelque part, que finalement, la vie, c'est probablement une conséquence des propriétés de la formation de la Terre. C'est-à-dire que ça se passe en même temps, quoi. Il y a peu de choses, très peu de choses près. Alors après, on se pose la question, finalement, quelle est cette échelle de temps de l'apparition de la vie par rapport à la formation de la Terre ? Il y a quelle est la différence de temps entre ça et le temps qu'il a, le temps, l'âge de l'univers ? L'âge de l'univers, c'est un peu, je ne sais plus combien c'est autour de 10 ou 20 milliards d'années, je crois. Donc la Terre s'est formée pas très longtemps non plus, après... Enfin, à l'échelle, toujours,
oui, bien sûr.
C'est pas les mêmes échelles de temps que celles auxquelles on est habitué, mais il n'y a pas une énorme différence de temps entre l'origine de l'univers et l'apparition de la Terre. Donc ça veut dire que probablement, moi, sur ces simples considérations, on peut se dire que probablement il y a beaucoup d'autres planètes où la vie est apparue aussi. C'est-à-dire ce qu'on peut imaginer, c'est que si les conditions sont réunies au moment de la formation d'une planète, il y a de fortes chances pour que des systèmes vivants apparaissent. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est de la chimie. La vie, finalement, c'est de la chimie complexe, de la physico-chimie. Hein. Donc, si les conditions physico-chimiques sont réunies, je pense que les molécules qui sont nécessaires à fabriquer des systèmes vivants complexes peuvent interagir et conduire à l'apparition des systèmes complexes. La grosse difficulté, c'est, il y a deux difficultés. C'est d'une part, comment on peut fabriquer, pour pouvoir faire des systèmes complexes, il faut des molécules complexes. Donc il faut des molécules, des polymères, ce qu'on appelle des polymères. C'est-à-dire par exemple l'ADN ou les protéines. L'ADN et les protéines, c'est des enchaînements de perles. Des petites perles. Chaque perle veut dire quelque chose et ensemble, elles commencent à avoir une information qui est suffisamment complexe pour faire une cellule. Donc c'est la première question, c'est comment on peut fabriquer des polymères complexes. Alors ça, il y a des chimistes qui commencent à réussir à faire ça, à faire des polymères complexes, spontanément, dans certaines conditions. Et puis la deuxième, à mon avis, qui est la question qui est encore plus compliquée, c'est comment ces polymères complexes se sont regroupés au sein, à l'intérieur d'une membrane qui isole une cellule. Donc dans une petite bulle de gras, en fait, hein, parce qu'une membrane, c'est du gras, qui isole de l'eau à partir de l'environnement aqueux généralisé. Alors ça, on ne sait pas hein, comment tout ça s'est mis en place. On pense qu'au fond des sources hydrothermales, il y a les conditions adaptées pour faire ce genre de choses, parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour ce genre de choses. Il faut aussi il faut des gradients d'énergie, des gradients de température. Or, près des sources, dans les sources hydrothermales, il y a une température très élevée autour de... qui peut aller entre 60 et 400 degrés ou 600 degrés. Mais cette température, elle chute brutalement. C'est-à-dire qu'à quelques centimètres, on est à 2 degrés. Donc il y a des gradients de température. Et puis, il y a aussi une chimie très complexe. Parce qu'il y a tout ce qui sort de la Terre, là, du soufre, du méthane, plein de molécules complexes, dont on peut imaginer qu'elles interagissent pour générer des structures, des molécules, des polymères. Mais la vérité, c'est qu'on ne sait toujours pas comment ça a commencé.
Une hypothèse, c'est celle de l'attraction et de la proie, dites-vous.
Alors ça, c'est après. C'est pour ouais. Alors oui, peut-être aussi au début, ça a commencé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des vésicules qui ont pu englober des molécules chimiques qui ont généré un métabolisme primitif qui ensuite a contribué à la fabrication localement de molécules complexes.
Oui, car elles étaient différentes, mais elles n'en forment plus qu'une.
Voilà.
Donc ça crée une complexité.
Ça crée une complexité. Et la suite, ensuite, la génération de la complexité, de la diversité des cellules, c'est venu de modifications de ces cellules primitives qui ensuite ont pu interagir entre elles. Et alors on pense qu'il y a beaucoup d'indications, en particulier on voit ça, on a vu ça dans Tara Océan, dans l'expédition, dans les protistes. Il y a énormément de... Les protistes, c'est des organismes unicellulaires, mais quasiment tous les protistes sont symbiotiques. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une cellule, et à l'intérieur de cette cellule, il y a un noyau, comme dans nos cellules à nous. Mais en plus, il y a des mitochondries, comme nous aussi, pour fabriquer de l'énergie, des chloroplastes qui utilisent le soleil pour faire de l'énergie.
C'est déjà un petit monde en soi.
C'est un petit monde en soi. Et aussi d'autres... Il y a aussi beaucoup d'autres symbioses. C'est-à-dire que des différents protistes vivent ensemble et sont dépendants les uns des autres. Le corail, par exemple...
Donc ils font société, en quelque sorte.
Ils font une société. Le corail dépend d'une algue unicellulaire qui lui fournit de l'énergie, et qui est photosynthétique aussi. Et pratiquement tous les organismes unicellulaires vivent comme ça. Donc il est très raisonnable de penser que ces interactions entre les cellules, différents types cellulaires, mais aussi des virus... Et les transferts d'ADN, de molécules d'une cellule à l'autre, etc., dans l'océan. En fait, on peut voir l'océan comme une soupe, comme un réacteur à diversité, à la fabrication de diversité. Donc je pense que la grande diversité des cellules qu'on voit aujourd'hui provient de ces interactions multiples entre toutes ces cellules dans l'océan au cours de milliards d'années, quoi.
D'autant que c'est l'une des, je crois, des découvertes fondamentales que vous avez faites grâce à l'expédition Tara Océan, c'est que la diversité qui était attendue était en fait bien plus importante encore.
Oui, on a trouvé une diversité colossale au niveau des, bah, à la fois des protistes et des bactéries et des virus. Enfin, on savait qu'il y avait une grande diversité de la vie, mais on n'avait pas une bonne idée de l'échelle de cette diversité. Maintenant, on commence à avoir une idée assez précise et c'est colossal. Donc, effectivement, il y a une grande diversité. Et cette diversité, elle est importante pour... Alors, souvent, en ce moment, les gens sont très inquiets à cause de la disparition de la diversité. C'est inquiétant, pas en soi, mais c'est inquiétant pour une raison bien simple, c'est que on existe actuellement à cause de cette diversité, de la génération de cette diversité, et du coup, on dépend complètement, pour notre survie, de l'existence de cette diversité. Parce qu'on est les enfants de cette diversité.
Et oui, donc, on est en interaction avec
cette diversité-là. Voilà, avec cette diversité-là. Voilà. Et donc, si elle disparaît ou si elle change, on peut commencer à avoir des difficultés à fonctionner et à survivre, quoi. Donc, c'est la raison profonde de l'importance de la conservation de cette diversité. C'est pas tellement pour la vie elle-même, mais c'est pour nous.
Oui, c'est ça. C'est ce qu'on ressent tout à fait en lisant votre livre. On se dit, on est passé de l'inerte au vivant. Voilà. De façon assez mystérieuse. Il faudra peut-être y revenir, ouais. Quand même, parce que on a vu la construction de la complexité. Mais le grand saut, c'est quand même peut-être surtout de l'inerte au vivant. Parce que là, ça brouille un peu nos représentations, quand même. Comment le vivant peut naître de l'inerte, c'est une chose. Mais de fait, on se dit que la vie va continuer, mais nous, on est attachés à cet écosystème. Voilà.
On est attachés à cet écosystème, voilà. Alors, je pense qu'il y a une marge de manœuvre, c'est-à-dire que l'écosystème peut changer, fluctuer un peu, tout en nous permettant de continuer à vivre. Mais justement ça, on ne connaît pas les limites. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore. Et c'est une des raisons pour lesquelles les expéditions comme Tara Océan est importante, c'est qu'elle permet, et il en faudra d'autres, sur Terre aussi, il faut bien connaître ce qui est essentiel dans ces écosystèmes et le surveiller pour voir s'il y a des points de non-retour qu'on risque de franchir. Et qui peuvent nous mettre en péril.
Alors, dans l'ensemble des matériaux que vous avez recueillis, ils sont encore en cours d'analyse
Oui, bien sûr.
Vous pouvez nous parler un petit peu de ce travail qui semble titanesque.
Oui, c'est énorme. Ouais. en fait, si vous voulez, l'idée initiale, justement, de Tara Océan, c'était de faire un inventaire exhaustif. Enfin, le plus exhaustif possible, c'est jamais complètement exhaustif, mais le plus exhaustif possible, de la diversité des organismes qui vivent dans l'océan, depuis les virus jusqu'aux larves de poissons. C'est-à-dire, dans l'océan, il y a des virus, des bactéries, des protistes, on en a parlé, et des poissons, évidemment, des crustacés, et puis il y a les œufs et les embryons, tous ces... parce que la plupart de les fécondations sont généralement externes, dans l'océan. Donc, on peut voir toute cette diversité. Et il n'y avait pas de données sur l'ensemble de la diversité, depuis les virus jusqu'aux larves de poissons. Et donc, c'était ça l'idée. Donc, on a développé des méthodes d'échantillonnage qui permettaient de faire ça. Ensuite, il fallait évidemment savoir comment caractériser cette diversité. Il y avait d'une part la génétique, donc la génomique, caractériser les gènes. Et en connaissant les gènes, on peut identifier les espèces aussi. Et puis, de l'autre, il y avait la morphologie. Donc, on a pris des échantillons qui permettent à la fois de séquencer l'ADN et l'ARN et de faire de la microscopie quantitative pour caractériser la diversité morphologique. Donc, on a fait tout ça. Et ça a permis de caractériser des dizaines de millions de gènes bactériens, aussi de gènes eucaryotes, donc des cellules comme les nôtres, et puis les espèces aussi, de quantifier les espèces. Alors, pour l'instant, on les a surtout quantifiées avec la génomique, mais on est en train aussi de le faire avec l'imagerie maintenant. Bizarrement, c'est plus long avec l'imagerie qu'avec la génomique, parce que la génomique permet d'identifier les espèces avec des petites parties du génome, qui sont hyper variables, donc qui permettent de caractériser les différentes espèces. Et ça, on peut le faire très rapidement maintenant avec l'informatique. L'imagerie, c'est un peu plus long parce que c'est plus complexe à analyser. Avec l'intelligence artificielle, on peut le faire maintenant.
Oui, on réalise en lisant votre ouvrage à quel point des avancées technologiques permettent des avancées scientifiques.
D'interaction, là aussi. Exactement, c'est une interaction, exactement. C'est un petit peu comme le développement, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose à un moment donné dans l'embryon qui permet le développement de l'étape suivante de l'embryon. Ben là, c'est pareil pour la recherche. quelque part. Si vous voulez, le fait d'avoir des méthodes de séquençage extrêmement puissantes a permis d'analyser l'énorme quantité d'échantillons de Tara-Océan qu'on n'aurait pas pu faire au début de l'expédition, d'ailleurs. Au début de l'expédition, le séquençage n'était pas assez puissant.
Alors, entre le début et la fin de l'expédition, ça a déjà changé.
Ça a changé en 2 ans, en fait, entre le moment où on est parti et le moment où on a eu les échantillons, ce qui a effectivement permis d'analyser les échantillons. Mais il n'y a pas seulement le séquençage, il y a aussi tout l'informatique, le stockage des données, tout ça, qui évolue à une vitesse extraordinaire en ce moment. Et l'imagerie, avec l'intelligence artificielle, permet d'analyser automatiquement des formes, ce qu'on ne pouvait pas faire, ce qu'il fallait faire avant à la main, ce qui était hyper long.
Oui, parce qu'on parle de combien d'espèces, là ?
Bah, des milliers d'espèces, des centaines de milliers d'espèces. Ouais.
Oui.
Donc à la main, c'est très compliqué à faire, c'est quasiment impossible. Ouais.
Oui, surtout qu'il ne s'agit pas de comparer à chaque fois une à la précédente, mais c'est une à toutes.
À toutes, voilà, c'est
systématiquement.
Ça. Ouais, systématiquement.
Donc, autant dire que c'est...
C'est colossal, oui.
C'est pas arithmétique, c'est jeu. Ouais.
Donc on est obligé d'utiliser des méthodes. Mais maintenant, ça marche très bien. C'est les mêmes méthodes qui permettent la reconnaissance faciale ou les choses comme ça, qu'on utilise pour reconnaître les organismes unicellulaires.
Ouais. Bon. Je préfère qu'on l'utilise pour les organismes unicellulaires.
Oui, moi aussi. Mais enfin bon, ça marche quand même pour le téléphone.
Si on parle un petit peu de ce passage de l'inerte au vivant, mm-hmm. qui brouille un peu nos représentations, et peut-être même les disciplines scientifiques, mm-hmm. j'ai compris qu'un de vos apports, c'était d'avoir dans les laboratoires que vous avez dirigés, toujours voulu agréger des compétences extrêmement diverses, mm-hmm. et notamment des physiciens.
Et des biologistes.
Et des biologistes.
Ouais.
Parce que la frontière, finalement, c'est celle-là, entre
chimie,
physique, biologie...
Ouais.
Finalement, on a l'impression que dans le bouillon de la culture initiale, les trois y sont. Et
bien sûr.
Ce n'est que ensuite que les choses se
séparent. En fait, il n'y a pas... La vie, si vous voulez, on ne peut pas comprendre la vie si on ne fait pas de chimie et de physique. C'est ce qu'on appelle la biologie au départ, c'était quand on parlait uniquement de caractérisation des organismes, d'observation. La vie, c'est-à-dire que... Les systématiciens regardaient, caractérisaient les organismes en les regardant. Donc c'était la vie. On caractérisait la vie. Par contre, quand on commence à se poser des questions sur ce qu'est la vie et son fonctionnement, on s'aperçoit que finalement, sans les chimistes et les physiciens, on n'aurait jamais rien compris. C'est-à-dire que la structure de l'ADN, c'est quand même un physicien, Francis Crick, qui l'a décrypté. C'est grâce à la diffraction des rayons X qu'on a eu la structure de l'ADN. Dans mon cas, les phénomènes d'auto-organisation, c'est de la physique statistique. On est obligé de comprendre le comportement collectif des molécules des phénomènes de morphogenèse comme Alan Turing les avait décrits dans ses équations de réaction-diffusion. Donc en fait, c'est vraiment... c'est normal, hein, c'est la vie, c'est un morceau d'univers, quoi. Donc l'univers, on peut l'aborder par la physique et la chimie.
Mais c'est là qu'on a l'impression, au bout d'un certain nombre des chapitres de votre livre, que la frontière, elle n'est pas tant entre l'inerte et le vivant, mais quasiment entre l'être et le non-être.
Oui, alors ça, c'est très intéressant parce que...
comme s'il y avait un continuum.
Il y a un continuum, mais il y a un continuum et en même temps des discontinuités. C'est-à-dire que, par exemple, la pensée, si on parle du cerveau un petit peu, parce que je n'en ai pas beaucoup parlé dans mon livre, on ne peut pas parler de tout, mais la pensée, ça émerge du comportement collectif des cellules du cerveau. Mais ce comportement collectif, il émerge aussi de la morphogenèse, c'est-à-dire de l'apparition de l'organisation des cellules du cerveau au cours de l'embryogenèse. Donc, donc, cette fonction de la pensée, qui est extrêmement complexe, émerge d'un empilement de complexités qui est mis en place au cours de l'évolution et au cours du développement embryonnaire. Donc, à chaque fois, il y a des sauts. Par exemple, quand on passe de la cellule procaryote, disons d'une cellule primitive, qui peut simplement se reproduire en utilisant de l'énergie, à une cellule eucaryote qui peut bouger, La cellule eucaryote, elle a tout un tas de molécules à l'intérieur, ce qu'on appelle le cytosquelette, qui lui permettent de bouger. Hein. Nous, quand on, nos muscles, par exemple, c'est ces molécules.
C'est le même processus.
C'est le même processus, c'est les mêmes molécules, en fait. Mais une cellule unique, qui n'est pas un muscle, qui est une cellule qui se promène, une amibe, par exemple, qui bouge sur, sur l'herbe ou des choses comme ça, elle bouge grâce à ces mêmes molécules. Et elle bouge parce que ces molécules interagissent entre elles et sentent l'environnement. Donc il y a une émergence du comportement des molécules. C'est les molécules qui, en interaction qui déterminent ce comportement complexe qui est le mouvement. Et à chaque fois, c'est comme ça que ça marche, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des empilements, il y a des interactions de plus en plus complexes. Et on arrive à cette fonction extraordinairement incroyable qu'est le cerveau et évidemment la conscience qui en découle.
Qui est le saut ultime.
Et un saut ultime, ouais. Alors le saut ultime, il est quand même assez fascinant, parce que nous, ce que je trouve extraordinaire avec le cerveau et la conscience, c'est ce que je dis dans le livre, c'est qu'en fait, on vit pas très longtemps, hein, on vit quelques dizaines d'années. Et on est capable, pendant cette vie, de se refaire une représentation de l'univers dans lequel on vit, qui, lui, à une échelle de temps de milliards d'années, et un espace colossal. Donc et en plus on est capable de modifier cet univers, c'est-à-dire que en le comprenant, c'est-à-dire qu'en se faisant une représentation objective et organisée de cet univers, on peut le modifier pour le bien et pour le mal, parce que alors justement, comme on va très vite, qu'on est très très efficace, on le modifie très rapidement et on se retrouve avec ces problèmes écologiques qu'on a actuellement, parce que on sort du système auto-organisé à sa propre échelle. Oui. On change d'échelle. En fait, on a changé d'échelle avec l'humanité, de temps et d'espace.
Oui, oui, c'est-à-dire qu'on sort d'un univers où nous ne serions que objets d'interaction qui nous seraient extérieurs,
ouais.
Et on commence à avoir une volonté.
Exactement.
Une volonté qu'on peut appliquer.
Appliquer, voilà.
Donc on se sort de ce principe
d'auto-organisation. On sort. Enfin, on y participe, mais en en sortant. C'est qu'on s'extrait du système. Intellectuellement, en tout cas, et puis opérationnellement aussi.
Ouais. Alors c'est vrai que si on fait des analogies, alors c'est toujours dangereux ou douteux de faire des analogies entre, d'une part, ce qu'on observe dans le monde physique ou biologique, et ensuite l'appliquer à la société. Toutefois, si j'entends que la vie est faite d'auto-organisation, ça pourrait être un modèle dont pourraient s'emparer des gens qui pensent qu'il faut laisser la société s'auto-organiser, ou le marché s'auto-organiser, qui peut être une des modalités d'auto-organisation finalement performante, puisqu'elle serait au cœur même de la vie. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah, mais elle est très performante. Le marché s'auto-organise de façon extraordinairement performante pour quelques-uns.
De temps en temps, il y a des cracks.
Il y a des cracks. Non, il s'organise. Non, non, c'est très performant. Ça a été très performant, en fait, parce que ça a permis le développement extrêmement rapide. Et c'est là où il y a une interaction complexe entre la science, la technologie, l'économie et la société. Ça a permis un développement extraordinairement rapide de la technologie et de la connaissance. Alors, le côté négatif, c'est que dans cette équation, dans ce phénomène d'auto-organisation du marché, il n'y a pas le feedback de l'environnement. Donc, en fait, le marché, effectivement, si on parle à un économiste libéral, il ne connaît rien à la biologie, il ne connaît rien à la physique ou pas grand-chose. Et donc, il va vous dire, bah, oui, ça marche très bien. Vous voyez, on génère des quantités des flux monétaires considérables. Et avec ces flux monétaires, vous pouvez faire de la recherche. Vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez gagner beaucoup d'argent et devenir très riche. Le problème, c'est que les conséquences de tout ça, c'est une activité technologique anarchique qui est complètement déconnectée de ce qui permet à ces gens-là de travailler et d'exister, c'est-à-dire le système vivant général. Et du coup, sans cette boucle de rétroaction, on ne peut plus parler d'auto-organisation, mais en fait, on impose une certaine forme de fonctionnement à la nature sans le feedback qui existe normalement dans les systèmes auto-organisés qui permettent d'équilibrer le système. Alors,
En fait, c'est comme si on raisonnait en oubliant un paramètre.
Voilà, c'est comme si on raisonnait en oubliant un paramètre, voilà. Ou plusieurs paramètres. Donc ça marche pas. Et c'est pour ça qu'en ce moment, moi, je dois dire que je suis extrêmement inquiet parce que j'ai vraiment, et beaucoup de gens, je pense, partagent. C'est pour ça qu'on a eu hier cette marche, hier dimanche et samedi. C'était le 19, je crois, 19.
Oui, c'est la marche pour le climat.
La marche pour le climat. Parce que les gens commencent à vraiment prendre conscience de qu'on est dans, on est parti dans une direction très dangereuse. Et donc, il faut faire quelque chose. Il faut vraiment... Alors, comment en sortir? C'est là aussi les phénomènes de... C'est assez inquiétant parce que, en général, quand on part dans une direction comme ça, dans les systèmes complexes, c'est très difficile d'en sortir parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Donc, si on veut évoluer dans la bonne direction, il faut aller de l'avant, mais dans une autre direction. Et pour l'instant, on ne la connaît pas bien. Parce que on est très nombreux sur Terre. Beaucoup de gens ne comprennent pas du tout ce qui leur arrive dans le système complexe dans lequel ils sont. Donc, c'est un vrai problème parce que les systèmes, on est dans des systèmes quand même démocratiques. Donc, comment changer les choses collectivement? Ça va demander beaucoup de, je pense, d'intelligence et de réflexion collective, en fait. La situation dans laquelle on est.
Pour poursuivre sur des thèmes d'actualité, pas l'actualité immédiate, mais l'actualité de l'époque, puisque vous êtes biologiste, vous travaillez sur les molécules, sur les gènes, la façon dont s'organise la vie, que pensez-vous des tentations ou des mises en œuvre de transformer les organismes vivants volontairement? On appelle couramment les OGM, mais pas seulement en agriculture.
Oui, ça peut se faire sur l'homme.
Ça se fait même sur l'homme. Enfin, je crois que récemment en Chine, il y a eu...
Oui, il y a eu des histoires, ouais, avec un... Moi, je pense que...
De jumelles dont on avait modifié l'ADN façon à ce qu'elles puissent être résilientes au virus du sida. Bon, c'est une première.
Moi, je suis très inquiet, justement, pour tout ce que j'ai dit. Je me méfie énormément de ces choses-là parce que c'est très difficile de prévoir quelles vont être les conséquences, en fait, de la modification d'un gène. Ça, c'est jamais... comme c'est non linéaire, c'est-à-dire que... Alors, des fois, ça marche, c'est-à-dire qu'on modifie un gène, puis ça a un effet très précis. Mais la plupart du temps, le gène, il est impliqué dans beaucoup d'autres choses. Et donc... Je pense que prédire... Alors, ça, c'est le côté scientifique. Hein, il y a les raisons scientifiques pour lesquelles il faut se méfier de ces choses-là. C'est que c'est très difficile de prédire les conséquences de la modification d'un gène sur l'ensemble de l'organisme à long terme.
Parce que, précisément, dans un cadre d'interaction et pas dans le schéma mécanique...
Dans le schéma mécanique linéaire, un gène, une fonction. C'est beaucoup plus complexe que ça. Au niveau écologique, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on fait des plantes transgéniques, c'est pas le fait de faire une plante transgénique en soi qui est dangereux, c'est quelles vont être les conséquences de l'exploitation à grande échelle de cette plante sur le système, sur l'écosystème au sein duquel on met cette plante. On ne peut pas prévoir ça. C'est très difficile à prévoir. Donc je pense que, enfin moi je suis personnellement très réservé sur toutes ces applications, c'est de la... Il faut aller lentement, je pense, dans ces histoires-là, il faut faire très attention. Et on n'a pas toujours les moyens de faire les expériences qui permettent de prévoir justement ce qui va se passer au sein de l'écosystème. C'est la même chose qu'en ce moment des gros problèmes avec les pesticides. C'était simple, on s'est dit on élimine les insectes. Et ça pousse. Alors, les agriculteurs ne sont pas contents en ce moment parce qu'on leur dit « mais il faut arrêter ». Ben oui, mais il faut arrêter. Parce que, d'abord, parce que ça a un impact sur la santé.
Pas la leur, d'ailleurs, aussi.
Et la leur aussi. Mais il n'y a pas seulement ça. Ça a un impact sur l'ensemble de l'écosystème. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'insectes sur des surfaces considérables. La Beauce, par exemple, c'est énorme, hein, comme surface. Aux États-Unis, les grandes plaines du Midwest. Mais sur toutes ces zones-là, on élimine complètement les insectes. Or, les insectes, c'est les oiseaux, après, qui les mangent, c'est tout un truc. C'est totalement irresponsable. Donc, je pense que cette vision de l'économie intensive, je crois on dit, hein, c'est une vision dangereuse aussi. Alors, je suis pas un écologiste fanatique, mais ça, c'est des, si vous voulez, c'est quand même des choses scientifiquement, c'est clair, hein, on le sait. C'est des choses qui conduisent à une diminution considérable du nombre d'espèces, à un appauvrissement des sols. C'est pas une bonne solution.
Pour non pas pour conclure, mais pour continuer à explorer ces questions qui dépassent le cadre scientifique, ouais, et qui s'en inspirent, vous démarquez à plusieurs reprises de ce que vous appelez le néo-darwinisme. Mais ouais, c'est très certainement relié à ces questions, d'ailleurs. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il en est ? Quel oui, postulat du néo-darwinisme et pourquoi vous le remettez en cause, du moins vous le complétez
Oui, je remets pas en cause la notion de sélection naturelle, parce que c'est évidemment ça existe, hein, on sait que c'est ce que je dis dans le livre, c'est un peu une tautologie, c'est-à-dire que évidemment les organismes qui sont les mieux adaptés vont survivre aux autres, ça c'est sûr. Ce que je remets en question dans le néo-darwinisme, c'est que ils ont toujours eu tendance à nous dire que c'était l'explication de l'évolution. Non, c'est pas l'explication de l'évolution, c'est un paramètre de l'évolution. C'est-à-dire que la sélection naturelle élimine ce qui marche pas. Mais par contre, l'origine de la diversité, c'est là qu'est le problème. Or, ils s'étaient basés sur l'idée que c'était principalement des mutations ponctuelles ou des choses comme ça. C'est pas ça. L'origine de la diversité, c'est les interactions, c'est les échanges de gènes, les choses comme ça. Et après, c'est ça. Je parle pour les organismes simples unicellulaires dans l'océan. Les organismes terrestres, c'est un peu plus compliqué parce que l'origine de et le problème de la sexualité et de la divergence des espèces. Mais c'est la même chose. Ce qui génère l'évolution, c'est les échanges entre espèces. Il y a des moments où il y a des espèces qui ont échangé entre elles. Ça a généré des organismes différents. Évidemment, ceux qui étaient les plus adaptés ont survécu.
Mais c'est là que dans le néo-darwinisme, l'erreur serait, en tout cas dans l'interprétation, de se focaliser sur la soustraction et pas sur le foisonnement de la démultiplication des sources de vie.
C'est pas faux, le néo-darwinisme, mais c'est plus une...
C'est l'étape numéro 2, après voilà, le foisonnement, voire voilà, en même temps que le foisonnement.
C'est un peu, ça a tendance un petit peu à limiter la façon de penser des gens qui travaillent sur l'évolution. C'est-à-dire qu'il faut, je pense qu'il faut, il est important de travailler, de pas croire qu'on peut comprendre l'évolution en travaillant sur des organismes simples, avec des modèles extrêmement simples, vous voyez, comme la levure ou des choses comme ça, et sur la sélection de ces organismes, sur les modèles de génétiques des populations qui sont généralement utilisés pour analyser ces choses, qui sont intéressants, mais qu'il ne faut pas extrapoler ça à l'explication d'évolution, parce que ça empêche d'autres gens de prendre des voies qui sont différentes et probablement intéressantes pour comprendre comment l'évolution fonctionne.
Écoutez, merci de ces considérations, car elles nous montrent à quel point la science n'est pas une discipline qui tourne sur elle-même au fin fond d'un laboratoire perdu entre des gens qui ne se comprennent qu'entre eux. Vous venez de nous démontrer au cours de cet entretien à quel point elle est au contraire au cœur de la société,
absolument,
de ses enjeux, et à quel point elle peut nourrir la réflexion, y compris des gens qui ne sont pas des scientifiques.
Absolument.
Toutefois, quel conseil donneriez-vous outre le conseil que moi je vais donner, c'est-à-dire de lire votre ouvrage, parce que c'est une plongée vraiment formidable dans le mystère, de moins en moins mystérieux, mais toujours merveilleux,
et quand même encore mystérieux. Hein.
Mais donc, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui serait inspiré par une carrière scientifique, qui s'interrogerait sur ces questions-là ? Comment commencer à travailler sa passion, par quel état d'esprit, quelle lecture, quelle filière?
Ah oui, je pense qu'il faut lire pas mal de... Au niveau des lectures, il faut lire pas mal de livres de philosophie, un peu, parce qu'il y a des grandes questions... souvent, les questions scientifiques viennent de questions de philosophes, un peu. Et puis, il y a pas mal de livres à lire sur la vie, sur la physique, sur la... Il faut lire beaucoup sur la physique et la chimie aussi, parce que c'est... c'est vraiment la base de la connaissance de l'univers. Et après, je crois qu'il faut faire des études interdisciplinaires. C'est-à-dire qu'il faut s'intéresser à la vie, donc faire des études de biologie, mais en même temps, pour, si les gens veulent faire de la biologie, mais en même temps, il faut faire absolument, il faut faire de la physique et de la chimie, de la physico-chimie, tout ça. Il faut avoir une formation assez diverse. Parce que je crois que la science, c'est vraiment, maintenant en tout cas, on peut plus vraiment faire de la recherche sans avoir une formation, au moins, pas forcément une formation très pointue dans les disciplines adjacentes à ce qu'on veut faire, mais il faut connaître pratiquement toutes les disciplines, au moins un peu, et les comprendre. Moi, par exemple, je suis pas un grand mathématicien, j'ai toujours été assez mauvais en maths, mais ceci dit, je comprends très très bien les concepts de physique et de chimie, de physico-chimie et tout ça, j'ai pu les utiliser et travailler avec des physiciens et des mathématiciens et des chimistes, parce que je comprends très bien ces domaines-là. Donc, il n'y a pas besoin d'être un très grand, d'être une lumière dans toutes les disciplines, mais il faut connaître beaucoup de disciplines. Ouais. Et être capable d'avoir un esprit très ouvert aussi.
Peut-être un honnête homme.
Un honnête homme, voilà. On en revient aux lumières, c'est à l'académie.
Oui. Exactement, c'est un petit peu le projet de l'Institut, réunir les disciplines, les faire dialoguer entre elles. Mm-hmm. Et donc ça fait une excellente conclusion pour une émission sur Canal Académie. Mm-hmm. Merci beaucoup Eric Carsenti. Je rappelle les références de votre ouvrage, Aux sources de la vie, c'est chez Flammarion. Merci beaucoup de cette odyssée, tous les sens du terme.
Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation. Thank you.